On a besoin des indépendants. On a besoin des gens qui créent des nouveaux concepts. On a besoin des gens qui réussissent dans leur création et de ceux qui se plantent aussi, parce que leur créativité, leur inventivité fait partie de ce qui nous fait progresser.
Jean Samper fête ses 45 ans de carrière auprès des réseaux de franchise et c'est tout naturellement que nous l'avons convié à venir fêter cela sur les voies de la franchise.
Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute.
Bonjour Jean et bienvenue sur les voies de la franchise.
Bonjour Claire.
Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous voulez bien vous présenter ?
Oui, volontiers. Alors 45 ans, ça fait un peu penser à un dinosaure de la franchise, mais bon, je pense que j'ai encore de bonnes artères. Alors j'ai commencé en 75 dans le groupe Prouveau avec les filets tricotés Pingouin, Welcome, etc. Et très rapidement, donc, j'ai commencé dans le service développement, puis je suis passé à la création de filiales à l'étranger, notamment enfin dans les pays nordiques, hein, Suède, Danemark, Finlande et Norvège. Et puis en 89, j'ai créé le cabinet conseil. Puis en 93, j'ai entre guillemets inventé, le mot est un peu fort, le recrutement de franchisés par Minitel, le 36-15 francs. Et donc ça, c'était une autre époque. En 2002, donc acfranchise.com, le site de recrutement de franchise que j'ai revendu en 2017. Et puis, depuis plusieurs années, maintenant, le Franchise Business Club qui occupe toute mon énergie, tout mon temps.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast. Dans votre dernier article, justement, sur ce Franchise Business Club, qui est une plateforme de mise en relation, vous vous définissez comme un passeur de savoir-faire. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment l'objectif des voies de la franchise, qui est un lieu de transmission, de savoir-faire et d'expérience autour du thème de la franchise. Alors, si vous deviez définir le terme franchise, commerce en franchise, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors évidemment, il y a beaucoup de définitions possibles, mais c'est un point de vue un peu personnel que vous me demandez. Donc pour moi, je dirais que il faut séparer le point de vue du franchiseur et le point de vue du franchisé, parce que définir la franchise dans son ensemble, ça me paraît un peu théorique. Donc j'aime bien partir de l'intérêt de chacun. L'intérêt du franchiseur, et ça définit à mon avis ce qu'est la franchise, eh bien c'est d'abord un formidable levier financier. Ça permet d'aller plus vite, ça permet de prendre des parts de marché, ça permet aussi d'acquérir plus de sécurité en allant suffisamment vite, avec un certain nombre de choses prudentes, bien entendu, de mesures, mais en allant suffisamment vite pour que des concurrents ne nous doublent pas, n'aillent pas plus vite que nous et ne nous asphyxient pas en étant plus dynamiques que ce que nous avons les moyens d'être. Donc pour moi, c'est d'abord un levier financier et puis c'est aussi un formidable outil pour rentabiliser davantage les points de vente, parce que des franchisés sont plus efficaces que des staffs salariés dans des entreprises, d'une part, et puis d'autre part, pour rentabiliser et amortir les frais centraux, acheter des produits, les mettre en fabrication, avoir une informatique performante, etc. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a un réseau. Pour le franchisé, c'est un petit peu différent. Le franchisé, finalement, il est toujours partagé entre deux motivations. Copier un succès, copier une formule qui marche et limiter son risque. Et la franchise, elle a ceci de particulièrement intéressant, c'est qu'elle permet au franchisé, justement, de créer son entreprise, d'être chef d'entreprise, de réussir en limitant son risque grâce à la copie d'un concept qui fonctionne et grâce à l'aide qu'on lui apporte. Et certains franchisés vont vouloir se tourner vers des concepts où ils sont, je vais exagérer, tenus par la main, guidés dans le détail, dans le quotidien. D'autres vont trouver des franchises où ils sont beaucoup plus, non pas livrés à eux-mêmes, mais où ils ont plus d'initiative. Donc il y a une panoplie, il y a une largeur de concepts et d'accompagnement qui permet à chacun de s'y retrouver.
Et pour l'un comme pour l'autre, pour vous, quels seraient les éléments clés à connaître? D'abord, peut-être commençons par le franchiseur. Quel serait vraiment l'élément essentiel à connaître ou les éléments essentiels à connaître?
Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est l'homme. C'est-à-dire que, en fait, lorsque j'ai commencé chez Pingouin dans les années 75, si vous voulez, naturellement, le seul fait d'avoir une centaine de magasins, enfin, on en avait 1850 en France, mais bon, le seul fait qu'un franchiseur ait une centaine de magasins lui permettait d'acheter moins cher, d'amortir un certain nombre de coûts, d'avoir une puissance en matière de communication beaucoup plus importante que l'isolé, etc. Et je serais tenté de dire que même avec un concept pas boiteux, mais à peu près au point, l'effet de masse était suffisant pour prendre des parts de marché et réussir. Ensuite, il a fallu être beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus prêt, beaucoup plus abouti. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de chaînes de franchise, mais surtout, en face des chaînes de franchise, il y a de plus en plus de succursalistes puissants, bien structurés et tout à fait professionnels. Donc, en fait, il a fallu non seulement que le concept soit plus abouti, mais il a fallu également que les outils, que le détail, que les manuels, que le savoir-faire soient plus aboutis, plus au point, mieux transmis, etc. Mais aujourd'hui, finalement, quand on regarde les parts de marché qu'occupent à la fois les succursalistes, les coopératives, qu'il ne faut pas oublier, et les franchises, on se rend compte que dans le paysage de nos villes ou de nos centres commerciaux, cette part de marché est tellement importante qu'il ne faut pas réagir en disant « je vais lutter contre le petit commerçant isolé local ». Non, il faut se mettre à la hauteur des autres réseaux et même les dépasser pour être capable de croître rapidement. Et ça ne se fait que si on a les bons hommes et femmes, bien entendu. Que ce soit en tant que salarié du franchiseur, pour l'assistance des franchisés, etc., mais surtout en tant que franchisé. Donc aujourd'hui, l'homme, la sélection des hommes, le management des hommes, le bonheur des hommes, la réussite des hommes et femmes en tant que franchisés sont des facteurs déterminants.
D'accord. Ben c'est vrai que c'est important et on a vu dans cette crise qu'on vient de traverser, d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de réseaux renvoient, qu'effectivement, ceux qui ont réussi à garder du lien et à remettre l'homme vraiment et la relation au cœur de leur activité pendant ce confinement redémarrent plus facilement et avec une équipe plus soudée. Oui, certains parlent même de recréation de confiance plus importante effectivement pendant ce confinement. Alors 45 ans dans les réseaux de franchise, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'expériences. Si vous deviez nous en faire partager deux ou trois, quels seraient ceux que vous choisiriez?
Eh bien, curieusement, j'ai rarement réfléchi à cette question-là parce que je suis toujours en train de penser à ce qui va se passer après, toujours en train de préparer. Donc, le fait de réfléchir à ce qui m'a le plus plu dans mon expérience, ce qui m'a le plus intéressé, les meilleurs souvenirs, finalement, ça tourne autour d'un seul mot, créer. Donc, ce qui m'a le plus intéressé, c'était d'abord la création des filiales nordiques dans les pays scandinaves plus la Finlande, que j'ai fait, donc ces créations de filiales que j'ai pu faire pour le groupe Pingouin. C'était la première création. La deuxième création, c'était bon le cabinet conseil, mais ça c'était un petit peu à la fois. La deuxième création, c'était vraiment entre guillemets l'invention du recrutement de franchisés par Minitel. La troisième, c'était la création d'acfranchise.com, ce portail de recrutement et d'information sur la franchise. Et puis la quatrième, c'est le Franchise Business Club. Mais finalement, en dehors de ces créations, je n'ai jamais trouvé dans mon expérience d'autres joies professionnelles qui méritent d'être à ce niveau de mes quatre créations principales.
Donc vous êtes un créateur.
Oui.
C'est la définition que vous donneriez. En tout cas, c'est ce qui vous donne le plus de joie.
Un créateur avec toutes les bêtises qu'un créateur peut faire et puis les quelques réussites qu'il a et qui l'emmènent jusqu'au bout de sa carrière, oui. Mais des bêtises, j'en ai fait.
C'est tout l'enjeu de la création, c'est d'effectivement d'arriver à faire que les réussites soient supérieures peut-être aux petites bêtises qu'on peut faire. Oui. Alors depuis 2018, vous avez effectivement créé le Franchise Business Club et vous en êtes toujours le dirigeant. Alors on va se pencher un peu plus sur cette nouvelle création. Comment vous le décririez, ce Franchise Business Club? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre derrière, en fait?
Oui, une petite précision quand même. En fait, le Franchise Business Club, je l'ai créé en 2011, mais il a surtout été actif depuis 2013 à travers des ateliers qu'on appelle maintenant présentiels. Moi, je les appelais des ateliers, des workshops, tout ce qu'on veut. Et donc, on faisait des rencontres. D'ailleurs, il me semble que vous êtes venu à certains de ces ateliers à Paris. Et on faisait des...
Tout à fait, oui, oui.
Merci d'ailleurs de votre contribution. Et donc, on faisait des ateliers à Paris, Bruxelles, Tunis, Alger. Et on en fera encore, mais évidemment, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Donc, ces échanges entre personnes qui se rencontrent et qui viennent parler d'un même sujet, qui viennent échanger autour d'un même sujet, c'était l'ADN. Le deuxième point, c'est que nous avions à l'époque un site plaquette qui disait... le Franchise Business Club, ça fait ceci, ça fait cela. Bon, c'est basique. Et puis, lorsque j'ai vendu à cesfranchises.com, j'ai eu la surprise finalement de constater que mes repreneurs ne s'intéressaient pas tellement au Franchise Business Club et je me suis rendu compte que je n'avais fait que 10% du chemin, finalement. Donc, j'ai gardé le Franchise Business Club pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un club figital. Alors, figital, c'est un grand mot, mais pour dire qu'on va... On a des ateliers physiques, présentiels, et on va en refaire dès que la situation présente se sera un peu apaisée et que nous prendrons un risque zéro en nous revoyant et en refaisant des manifestations où les gens se croisent et échangent physiquement. Mais j'avais aussi le but de faciliter les échanges dans la durée, tout au long de l'année, parce que les membres me disaient... c'est bien d'avoir des événements de temps en temps, mais on n'a pas de continuité dans l'année, dans nos relations, il faut téléphoner, il n'y a pas un outil spécifique. Donc, j'ai créé le réseau social franchisebusinessclub.com, qui est un réseau social professionnel, on va dire un LinkedIn, mais hyper spécialisé, qui ne réunit que des gens qui sont des professionnels des réseaux, des salariés de franchiseurs, des franchiseurs, des experts et des prestataires, qui peuvent rendre des services utiles au réseau. Donc aujourd'hui, le Franchise Business Club, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord un lieu d'échange, d'expérience et de réseautage réservé aux professionnels des réseaux, non pas que nous méprisions les candidats à la franchise et les franchisés, mais ils ont déjà des sites comme Toute la Franchise, LC Franchise, l'Observatoire de la Franchise qui sont super bien faits et il n'était pas nécessaire d'en faire un de plus. Par contre, cet aspect réunion de professionnels, échange entre professionnels, etc., n'était pas, on va pas dire que ça n'existait pas, mais n'était pas fait à ce niveau de sophistication, de praticité et de réalisme. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Alors, on a trois cibles, finalement. On a trois types de membres. On a le professionnel de la franchise, quel que soit son métier, qui y trouve le moyen d'améliorer son savoir-faire, d'échanger des bonnes pratiques et des bons savoir-faire et des bons tuyaux avec d'autres professionnels, et qui, de ce fait-là aussi, acquiert plus de visibilité sur le marché, entre guillemets, de l'emploi de la franchise. Et donc, ça lui permet à la fois de faire du personal branding, comme on dit maintenant, de développer sa marque personnelle, d'être plus connue et d'être valorisée, et de le justifier par le fait qu'il a effectivement un carnet d'adresses, qu'il a appris des tas de choses, etc. Et puis, pour la deuxième cible, c'est le franchiseur, alors que ce soit le patron ou le directeur de réseau, hein, peu importe, le cadre dirigeant d'un réseau de franchise. Et lui, bien entendu, ce qu'il cherche, c'est à partager des expériences avec d'autres, à acquérir des savoir-faire supplémentaires, à avoir les bonnes adresses, etc. Et éventuellement, à dire à d'autres professionnels, j'ai tel besoin, j'ai tel souci, est-ce que vous pouvez m'aider ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider, hein? Donc là aussi, c'est de l'échange et du réseautage. Et puis, la troisième cible, ce sont les prestataires de services intelligent. C'est pas un fournisseur de papier qui a vocation à rentrer dans le Franchise Business Club. Ce sont des gens qui offrent des solutions, des savoir-faire, donc des prestataires de services, des avocats, des experts, qui naturellement sont intéressés, entre guillemets, de vendre leurs services au réseau, et ils trouvent dans le club le moyen de faire du soft marketing, en ce sens que plutôt que de décrocher son téléphone et dire aux gens « j'ai quelque chose à vous proposer », eh bien dans le club, ils vont participer à des ateliers, et lorsque la problématique traitée leur permet de dire « mais au fait, moi j'ai une solution », ils vont pouvoir intervenir et montrer qu'ils ont une compétence utile au réseau. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui, à travers les ateliers physiques quand ils vont reprendre, quelques événements plus importants dont on parlera bientôt, et puis les webinars, les réunions vidéo qui sont aujourd'hui un standard et qui, entre parenthèses, nous ont fait faire un grand pas, parce que le confinement, pour nous, ça a été une chance pour le club.
Oui, j'allais revenir un petit peu sur cette phase de confinement, parce qu'effectivement, ça a modifié beaucoup le mode de relation, au fait augmenter ce besoin en fait de conseils, de se réunir autour, de se coucouner un petit peu aussi entre nous. Et donc, comment le Franchise Business Club a agi pendant ce moment-là? Quels ont été vos enseignements par rapport à cette période?
Alors, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, on a passé un peu plus de temps à questionner les franchiseurs pour savoir ce dont ils avaient besoin. Et c'était pas facile parce que soit ils avaient l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et dire « mais oui, mais on a les mêmes besoins que tout le monde », soit ils manquaient de temps pour affiner leurs demandes. Et il a fallu travailler un peu pour écouter, interviewer, téléphoner et comprendre ce que nous pouvions offrir. Et puis le deuxième point qui nous a permis d'offrir ces services et d'être utiles, eh bien, c'est que nous n'avions pas encore organisé avant le confinement des vidéoconférences ou des webinars, et on a été obligé de le faire, et c'était une grande chance parce que d'un seul coup, on a pu toucher des gens en plus grand nombre sans leur demander de se déplacer, donc en économisant leur temps, et ça c'était extrêmement important, surtout dans cette période de confinement et de virus, ça c'est clair, mais ça nous a permis aussi de nous affranchir d'un seul coup des frontières. C'est-à-dire que nous étions finalement limités aux pays limitrophes, la Tunisie où j'allais souvent, l'Algérie un peu, la France bien entendu, la Belgique francophone, et puis ça faisait longtemps que nous voulions établir un pont transatlantique avec le Québec, pour des affinités sentimentales, culturelles, linguistiques, professionnelles, tout ça, ça se mélange, et on sait bien qu'on se fait souvent des illusions sur le fait de parler français va nous permettre d'envahir, si je peux m'exprimer ainsi, un autre pays, on se fait des idées, mais néanmoins, il y a une communauté quand même de pensée, d'intérêt, et avec suffisamment de différence pour que les échanges soient particulièrement riches et enrichissants. Et donc, on a pu, avec l'aide du CQF, qui est le Conseil québécois de la franchise, créer la partie du club, sous-club, enfin le club, le Franchise Business Club Québec-France, qui se consacre à tout ce qui est échange entre le Québec et la France. Mais en même temps, ça nous permet d'aller dans une autre direction qui nous est chère, c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un marché, tout le monde dit c'est le marché du siècle prochain, c'est le marché de ce siècle ou de la décennie à venir, et on sait bien que c'est difficile, et on sait bien que ça prend du temps, et on sait bien qu'on voudrait aller plus vite, et qu'il y a un certain nombre de barrières, et ces barrières, ben nous avons vocation, nous, à les, non pas à les supprimer, mais à les abaisser, à les diminuer, à les franchir, à trouver les points de passage, et donc nous créons aussi deux clubs, en transformant le Franchise Business Club Tunisie en un Franchise Business Club Maghreb, parce que vu de France ou du Québec, les problématiques sont finalement à 90% identiques. Bon, il y a des différences, etc., différences politiques, etc., mais le fond du problème est identique. Et puis, l'expérience marocaine qui est plus ancienne doit aussi servir aux Tunisiens, aux Algériens, etc. il faut dépasser les frontières, voilà, et nous on les dépasse facilement. Et puis également un site sur l'Afrique, comme on dit maintenant, subsaharienne francophone, où là les attentes sont considérables, les populations extrêmement importantes, les taux de croissance à venir, actuels et à venir, sont fantastiques, et on a non seulement quelque chose à leur apporter avec les réseaux français qui existent et qui les intéressent, mais peut-être encore plus, on a quelque chose à leur apporter en les aidant à créer chez eux des concepts de franchise locaux, adaptés particulièrement aux moyens, à la culture, aux finances, aux emplacements commerciaux, à la législation, à leur mode de vie. Parce que dans tous les pays, ce qu'on constate, c'est que les premiers franchiseurs qui arrivent sont des franchiseurs étrangers, des grandes marques très connues. On a vu souvent le textile français, on a vu souvent la restauration rapide américaine arriver les premiers sur les marchés émergents. Mais très très vite, ce sont des franchiseurs locaux qui bénéficient de cette expérience, de cet exemple, qui créent leur propre concept et qui se développent. Alors autant aller les aider à bien le faire et à apporter non seulement nos réseaux, mais aussi notre expérience, parce que notre intérêt, c'est que l'Afrique fonctionne bien, à tout point de vue.
Donc l'objectif de ces clubs étrangers, c'est un objectif, là encore, d'échange d'expérience et de partage d'expérience. Et j'imagine qu'ils ont aussi beaucoup peut-être à nous apprendre aussi dans leur manière de créer aussi des réseaux qui sont peut-être avec une approche différente qui pourrait être adaptable aussi en France.
Oui, il y a des réflexions. Oui, alors quand même, dans un premier temps, l'échange, il n'est pas à sens unique, mais il est plus de la France ou du Québec vers les pays récents en matière de franchise. Mais c'est vrai que ça nous amène beaucoup de réflexions et de savoir-faire en matière d'adaptation de concept, premièrement. Et deuxièmement, ça nous permet aussi de réfléchir aux manières de faire avec peu de moyens. Parce que comme ils ont peu de moyens financiers, enfin pas tous, il faut faire la part des choses, mais comme il y a souvent peu de moyens financiers, ça nous renvoie un petit peu à la genèse du développement de la franchise en France, et puis ça nous renvoie aussi à ce qu'il faut faire de plus en plus pour les demandeurs d'emploi. Et dans cette période post-Covid, tout ce qui est idée intelligente, maligne, pour faire beaucoup avec peu d'argent, va nous être considérablement utile. Et il va falloir qu'on s'occupe de ces jeunes qui arrivent sur le marché sans emploi ou avec des difficultés plutôt pour en trouver. Il va falloir aussi qu'on s'occupe, entre guillemets, des oubliés de la République, comme ils aiment s'appeler. Donc, je pense que la franchise, le rôle social de la franchise devrait, à mon sens, être enrichi par les expériences de ces pays qui font beaucoup avec peu de moyens.
C'est effectivement un moyen d'échanger, de s'inspirer, tout à fait. Est-ce que, justement, si on revient un peu à la place de la franchise dans nos vies, en fait, elle est vraiment partout. Beaucoup de gens l'ignorent, d'ailleurs, parce que on n'imagine pas que beaucoup de nos services aussi sont gérés par des franchises. On les retrouve de plus en plus dans l'ensemble des commerces. Est-ce que, justement, l'évolution des commerces, avec cette digitalisation, donc cette mixité entre mon magasin, le digital, renforcé par la crise qu'on vient de traverser et par les tendances qui étaient observées avant et qui ne se font que s'amplifier, donc ce besoin de livraison, de click and collect, de réservation, de tout cet outil de communication digitale, est-ce que du coup ça favorise bien sûr ce commerce en franchise ou ce commerce associé parce que il faut beaucoup de moyens et que le commerce indépendant aura de plus en plus de mal à exister? Est-ce que pour vous, ça va dans ce sens?
Oui, j'aimerais répondre avec un petit détour, parce que lorsque j'ai commencé dans la franchise, les chambres de commerce, par exemple, avaient tendance souvent à présenter les franchiseurs comme les ogres qui allaient prendre les parts de marché des franchises, des commerçants indépendants. Aujourd'hui, ça a radicalement changé. Il a fallu du temps, bien entendu. Mais aujourd'hui, les chambres de commerce et beaucoup de commerçants indépendants se disent que la franchise est pour eux un moyen de demeurer indépendant face aux succursalistes. Parce que les succursalistes ne sont pas des monstres horribles qu'il faut maudire, c'est pas ça. Mais naturellement, pour un indépendant, être face à des grands groupes succursalistes et faire le poids pour avoir le moyen de payer des loyers dans les meilleures rues, faire les meilleurs chiffres d'affaires, etc., on voit bien que c'est extrêmement difficile. Et donc, la franchise, c'est un moyen extraordinaire pour des indépendants de demeurer indépendants en se groupant pour faire certaines choses. Et que ce soit franchise, que ce soit coopérative ou que ce soit un groupement d'intérêts économiques pour des actions extrêmement ciblées, centrales d'achat, ou partager des réflexions sur le marketing, ou partager des réflexions sur le web, mettre en place des moyens communs de web marketing, etc., l'avenir ne se dessine extrêmement difficilement pour des indépendants isolés. On a besoin des indépendants. On a besoin des gens qui créent des nouveaux concepts. On a besoin des gens qui réussissent dans leur création et de ceux qui se plantent aussi parce que leur créativité, leur inventivité fait partie de ce qui nous fait progresser. Mais si on veut limiter la casse, si on veut permettre aux indépendants de progresser, de vivre, de rentabiliser, de ne pas mettre en danger leur famille et leurs économies, il faut qu'ils acceptent, c'est pour lutter contre les gros groupes, aujourd'hui il faut qu'ils acceptent de se grouper pour un minimum de choses, voire pour un concept complet sous le terme de franchise et sous le concept de la franchise.
On pourrait imaginer des franchises où effectivement il y aurait une mise en commun d'un concept, mais avec des adaptations locales qui s'adapteraient justement aux besoins, peut-être des petites villes qui auraient besoin d'avoir des locaux partagés comme ça, et ça existe déjà entre plusieurs franchises ou de plusieurs franchises qui s'associent pour créer un magasin avec plusieurs enseignes. Enfin, on pourrait imaginer aussi qu'effectivement on ne soit pas que dans une standardisation du commerce, mais dans une adaptabilité en fonction des circonstances et des conditions de l'emplacement.
Oui, avec quand même c'est un oui franc, mais un petit oui. Parce que finalement, celui qui décide, c'est le consommateur. Et le consommateur, il aime bien qu'on lui fasse des promesses claires, performantes et qui soient tenues. Et ça, c'est le consommateur qui, entre guillemets, est responsable de la du fait que d'une ville à l'autre, le commerce se ressemble. Bien entendu, il veut aussi qu'il y ait de l'originalité, des choses local, etc., etc. Mais finalement, on voit que les concepts qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui ont une promesse claire auprès du consommateur, qui savent l'exprimer fortement, qui savent la faire respecter par leur succursale ou par leur franchisé, et qui tiennent cette promesse et qui fidélisent le client. Alors, naturellement, il y a aussi une grande place à prendre et à garder pour les indépendants, entre guillemets, isolés, à condition qu'ils mettent des moyens en commun sur le plan informatique, web, marketing, etc. Et naturellement, on ne va jamais arriver à une standardisation complète du commerce, mais je ne pense pas que les concepts groupés, fluctuants, etc., soient une clé pour l'avenir. Avec quand même un exemple qui semble réussir, puisque à Vichy, il y a un concept qui réunit les caves Nicolas, la Comtesse du Barry et les chocolats de Neuville au sein d'un même magasin, et ça semble fonctionner. Mais c'est un concept en soi, ça n'est pas une adaptation locale qui va varier d'une ville à une autre.
C'est un concept qui est réfléchi et qui peut être dupliqué dans les villes de ce type de dimension sur l'offre. Oui, c'est pas effectivement chaque franchisé qui va faire sa petite adaptation dans son coin.
Ceci dit, dans la restauration, on peut tout à fait imaginer que il y ait 75% de la carte ou 50% de la carte qui soit pareil partout, et que dans le même état d'esprit, on ait, je vais dire une bêtise, hein, une crêpe à la choucroute, c'est vraiment idiot, hein, à Strasbourg, etc. Bon, pourquoi pas, mais forcément, ça n'est pas possible dans l'ensemble des magasins, dans l'ensemble des concepts. Et on l'a vu dans le textile, où beaucoup de gens ont essayé dans la mode, notamment la mode femme, de faire ce genre de choses, et où on s'est vite heurté à de nombreux problèmes en matière de logistique, en matière de perte de temps, puisque le franchisé passait énormément de temps à rechercher des produits et à juste et à comment dire utiliser son indépendance et sa marge de manœuvre hors concept au lieu d'être performant dans la vente et dans le management de son équipe. Et donc on se rend compte qu'il n'y a pas d'évidence en la matière.
Oui, oui. La personnalisation va se faire dans la relation client et dans la manière dont on va aborder les besoins du client et qu'on va l'écouter, plus que dans le concept, en fait. Le concept rassure le client, mais il attend la personnalisation au niveau de la manière dont on va le prendre en charge, l'écouter et le conseiller et le satisfaire.
Vous avez raison, oui, oui.
Très bien. Est-ce que vous avez envie de nous parler un peu plus de ces filiales étrangères sur le Franchise Business Club et cet enjeu? Est-ce que vous avez d'autres endroits que vous visez, que vous avez envie de développer? Ou est-ce que pour l'instant, ça se construit petit à petit et ça s'organise et ça donnera cette dynamique au Franchise Business Club?
Alors, évidemment, tout le monde peut rêver d'avoir un concept mondial, etc., de couvrir 190 pays ou même 60, mais bon, soyons réalistes. Le club ne peut fonctionner que si on rencontre les bonnes personnes dans un pays donné. Et donc, on ne peut pas rencontrer les bonnes personnes dans toutes les langues, dans un délai raisonnable, etc. Donc, pour l'instant, on a deux objectifs. Un objectif qui est de renforcer les services offerts aux membres à l'intérieur du club, et un deuxième objectif, c'est d'étendre ces services aux pays francophones. Je pense que si on fait ça, ce sera déjà très bien, et si un jour on va sur la Lune, c'est formidable, mais c'est pas sûr.
On ne sait pas si on y parle vraiment français non plus, hein, donc.
Exact.
Donc, très bien. Bah, merci Jean en tout cas pour cet échange et sur ce thème de la franchise qui est vraiment extrêmement intéressant. Et on va conclure par cette même question que j'aime poser à l'ensemble des personnes qui passent sur les voies de la franchise. C'est cette question sur le doute qui nous traverse tous un jour, plusieurs fois par jour, certaines fois, et puis et on a parfois chacun sa petite routine. Est-ce que vous, Jean, vous avez une petite routine face à ce doute?
Alors, le doute, je serais tenté de dire qu'il est permanent, il doit occuper 80% de mon temps. Non, 80% du temps où je pense, c'est-à-dire finalement pas si longtemps que ça, parce qu'on passe beaucoup de temps à faire et moins de temps à penser. Donc je doute beaucoup. Par contre, ai-je une routine? Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Je pense souvent à ma maman quand on me pose ce genre de questions. Elle a 90 ans et elle est pleine de projets. Et je pense que je suis fait comme ça. Je suis toujours en train de penser à quelque chose que je vais organiser, que je vais faire. Voilà, vous disiez tout à l'heure que je suis un créateur, oui, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises et quelque chose qui réussisse, mais je suis toujours en train de me projeter. Je crois que ça va me maintenir en vie pendant un moment, et si le Covid ne me rattrape pas, en tout cas.
Non, je pense que le Covid ne va pas vous rattraper, et en suivant votre maman, vous avez encore de longues années à passer avec le Franchise Business Club, la franchise auprès de tous ces acteurs et actrices de ce secteur d'activité qui est croissant et qui prend de plus en plus d'importance dans nos vies de façon assez agréable d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça offre aussi des concepts nouveaux et des, de l'inventivité, et ça offre aussi la possibilité à beaucoup de devenir son propre entrepreneur, ce qui est une volonté de beaucoup. Voilà, donc merci encore pour cet échange, et puis à très vite sur le Franchise Business Club.
Oui, merci beaucoup, et merci pour les podcasts, c'est une très très bonne idée, et j'espère que vous aurez l'occasion d'interviewer de plus en plus de personnes. Le monde de la franchise ne manque pas de personnes intéressantes à interroger.
Tout à fait. À bientôt. Au revoir, Jean.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.